Chapitre 2. La brusque apparition de frère Robert, qui avait suivi à la cour de Rome son jeune élève, destiné dès l'enfance à être le mari de Jeanne, vint se jeter au travers de tous les desseins de la Catanèse et menaça sérieusement son avenir. Le moine n'avait pas tardé à comprendre que tant que la grande sénéchale resterait à la cour, André ne serait que l'esclave et peut-être la victime de sa femme. Aussi, toutes les pensées du frère Robert furent-elles concentrées sourdement vers un seul but, celui d'éloigner la Catanèse ou de neutraliser son influence. Le précepteur du prince et la gouvernante de l'héritière du trône échangèrent un seul coup d'œil froid, perçant, lucide, et leurs regards se croisèrent comme deux éclairs de haine et de vengeance. Alors la Catanèse, s'entend deviner, n'ayant pas le courage de lutter ouvertement contre cet homme, conçut le projet d'assurer sa domination chancelante par la corruption et par la débauche. Elle infiltra lentement dans l'âme de son élève le poison du vice, irrita sa jeune imagination par des désirs précoces, sema dans son cœur les germes d'une aversion invincible pour son mari, entoura la pauvre fille de femme perdue, attacha particulièrement à son côté la belle et séduisante Donna Cancia, que les auteurs contemporains flétrissent du titre de courtisane, et pour achever d'un seul trait ses leçons d'infamie, elle prostitua Jeanne à son fils. La pauvre enfant, déjà souillée par le crime avant de comprendre la vie, se jeta dans sa première passion avec toute l'ardeur de la jeunesse et aima Robert de Cabanne d'un amour si violent et si frénétique que la rusée Catanèse, s'applaudissant de son œuvre infâme, crut si bien tenir sa proie qu'elle n'essaierait jamais de le lui échapper. Une année s'écoula sans que Jeanne, absorbée par son ivresse, conçut un seul soupçon sur la sincérité de son amant. Et le jeune homme, d'un caractère plus ambitieux que tendre, dissimulait adroitement sa froideur par une intimité fraternelle, par une aveugle soumission, par un dévouement à toute épreuve. Et peut-être eût-il réussi longtemps encore à tromper sa maîtresse si le jeune comte d'Artois ne fût devenu à son tour éperdument amoureux de Jeanne. Le bandeau tomba tout à coup des yeux de la jeune fille. En comparant ces deux sentiments avec cet instinct du cœur qui ne trompe jamais la femme aimée, elle comprit que Robert de Cabanne l'aimait pour lui-même, tandis que Bertrand d'Artois aurait donné sa vie pour la voir heureuse. Un trait de lumière éclaira son passé. Elle repassa dans son esprit les circonstances qui avaient précédé et accompagné son premier amour, et un frisson courut dans ses veines en songeant qu'elle avait été immolée à un lâche séducteur par la femme qu'elle avait le plus aimée au monde et qu'elle avait appelée du nom de mère. Jeanne se replia sur elle-même et pleura amèrement. Frappée d'un seul coup dans toutes ses affections, elle dévora sa douleur. Puis, animée d'une soudaine colère, elle releva fièrement la tête et changea son amour en mépris. Robert, étonné de l'accueil hautain et glacial qui venait de succéder à tant d'amitié, irrité par la jalousie, blessé dans son amour-propre, éclata en reproches amers et en récriminations violentes, et laissant tomber son masque, acheva de se perdre dans le cœur de la princesse. La grande sénéchale vit enfin qu'il était temps d'intervenir. Elle gourmanda son fils et l'accusa de miner par sa maladresse tous ses projets. « Puisque tu n'as pas su dominer son âme par l'amour, lui dit-elle, il faut la dominer par la crainte. Nous avons le secret de son honneur. Elle n'osera jamais se révolter contre nous. Évidemment, elle aime Bertrand d'Artois, dont les yeux langoureux, les humbles soupirs contraste d'une manière frappante avec ta fière insouciance et tes emportements despotiques. La mère des princes de Tarente, l'impératrice de Constantinople, saisira avec empressement l'occasion de favoriser les amours de la princesse pour l'éloigner de plus en plus de son mari. Calcia sera choisie pour messagère et tôt ou tard nous surprendrons d'Artois au pied de Jeanne. Alors elle ne pourra plus rien nous refuser. Sur ces entrefaites, le vieux roi bourru et la catanaise, il avait cessé de guetter le moment qu'elle avait prévu avec une lucidité extrême. Ayant vu le comte d'Artois se glisser dans l'appartement de Jeanne, appela son fils à haute voix et l'entraînant avec elle. « Suis-moi, lui dit-elle, la reine est à nous !» Et c'était dans ce but qu'elle venait avec son fils. Jeanne, debout au milieu de la chambre, le front couvert de pâleur, les yeux fixés sur les rideaux de son lit, cachant son trouble sous un sourire, fit un pas vers sa gouvernante et baissa le front pour recevoir le baiser que la grande sénéchale avait l'habitude d'y déposer tous les matins. La catanaise l'embrassa avec une cordialité affectée et se tournant vers son fils qui avait plié un genou en terre. « Permettez, ma belle souveraine, dit-elle en lui montrant Robert, que le plus humble de vos sujets vous adresse ses félicitations sincères et dépose à vos pieds ses hommages. « Relevez-vous, Robert, dit Jeanne en lui tendant la main avec bonté et sans laisser percer la moindre amertume. Nous avons été élevés ensemble et je n'oublierai jamais que dans mon enfance, c'est-à-dire dans cet âge heureux où nous étions tous les deux innocents, je vous ai appelé mon frère. Ah, « Puisque vous le permettez, madame, répondit Robert avec un sourire ironique, moi aussi je me souviendrai toujours des noms que vous avez daigné m'accorder autrefois. Et moi, j'oublierai que je parle à la reine de Naples, reprit la catanaise, pour embrasser encore une fois ma fille bien-aimée. « Allons, madame, chassez ce reste de tristesse. Vous avez assez pleuré. Nous avons assez respecté votre douleur. Il est temps de vous montrer à ce bon peuple napolitain qui ne cesse de bénir le ciel pour lui avoir accordé une reine si belle et si généreuse. Il est temps de faire pleuvoir vos grâces sur vos fidèles sujets. Et mon fils, qui les surpasse tous en fidélité, pour vous servir avec plus de zèle, vient avant tous les autres vous demander une faveur. » Jeanne laissa tomber sur Robert un regard accablant, et s'adressant à la catanaise, elle ajouta, avec le plus profond mépris, « Vous le savez, ma gouvernante, je n'ai rien à refuser à votre fils. » « Oh, une demande, repartit la gouvernante, qu'un titre qui lui est dû et qu'il a hérité de son père, celui de grand sénéchal du royaume des deux Siciles. J'espère, ma fille, que vous n'aurez aucune difficulté de le lui accorder. Ah, je devrais cependant consulter les membres du conseil de régence. Mais le conseil s'empressera de ratifier les volontés de la reine, reprit Robert en lui tendant le parchemin avec un geste impérieux. Vous n'aurez qu'à vous adresser au comte d'Artois. » Et il jeta sur le rideau, qui s'était légèrement agité, un regard foudroyant. « Mais vous avez raison, répondit la reine vivement. » Et, s'approchant d'une table, elle signa le parchemin d'une main tremblante. « Maintenant, ma fille, au nom de tous les soins que j'ai donnés à votre enfance, au nom de cet amour plus maternel dont je vous ai toujours chéri, je viens vous supplier de nous accorder une grâce dont ma famille gardera un éternel souvenir. » La reine recula d'un pas, rouge d'étonnement et de colère, mais avant qu'elle eût trouvé des mots pour en former une réponse, la grande sénéchale continua d'une voix impassible. « Je vous prie de créer mon fils comte d'Elbon, d'Eboli. » Ah, ça ne dépend pas de moi, madame. Les barons du royaume se révolteront en masse si j'élève de ma simple autorité à une des premières comtés du royaume le fils de... Ah, d'une blanchisseuse et d'un nègre, n'est-ce pas, madame? Ajouta Robert en ricanant. Bertrand d'Artois se fâchera peut-être si je m'appelle comte comme lui. Il fit un pas vers le lit en portant la main sur le pommeau de son épée. Oh, par pitié, Robert, s'écria la reine en l'arrêtant. Oh, je ferai tout ce que vous demandez. Et elle signa le parchemin qui le déclarait comte d'Eboli. Et maintenant, pour que mon titre ne soit pas illusoire, continua Robert avec une impudente témérité, puisque vous êtes en train de signer, mais accordez-moi le privilège de prendre part au conseil de la couronne et déclarer, sans votre bon plaisir, que toutes les fois qu'il s'agira d'une affaire grave, ma mère et moi nous aurons dans le conseil une voix délibérative. Oh, jamais! S'écria Jeanne en pâlissant. Philippa, Robert, vous abusez de ma faiblesse. Vous maltraitez indignement votre reine. Oui, j'ai pleuré, j'ai souffert tous ces jours derniers accablé d'une terrible douleur. Je n'ai pas la force de m'occuper d'affaires en ce moment. Allez, retirez-vous, je vous en prie, je me sens défaillir. Comment, ma fille, reprit la catanèse d'un ton hypocrite, est-ce que vous vous trouveriez mal? Venez vite vous reposer. Et s'élançant vers le lit, elle saisit le rideau qui cachait le comte d'Artois. La reine poussa un cri perçant et se jeta comme une lionne sur sa gouvernante. Arrêtez, dit-elle d'une voix suffoquée. Voici le privilège que vous demandez maintenant. Sortez, si la vie vous est chère. La Catanèse et son fils sortirent à l'instant, sans même répondre, car ils avaient obtenu tout ce qu'ils désiraient. Et Jeanne, tremblante et perdue, s'élança vers Bertrand d'Artois, qui, enflammé de colère, avait tiré le poignard et voulait se précipiter sur les deux favoris pour venger les insultes qu'ils venaient de faire à leur reine. Mais le jeune homme fut bientôt désarmé par l'éclat de ses beaux yeux suppliants, par ses deux bras qui entouraient sa taille, par les larmes de Jeanne. Il tomba à son tour à ses pieds, qu'il baisa avec transport, sans songer à lui demander pardon de sa présence, sans lui parler de son amour comme s'ils s'étaient toujours aimés. Lui prodigua les plus tendres caresses, essuya ses larmes, effleura ses beaux cheveux de ses lèvres frémissantes. Jeanne avait peu à peu oublié sa colère, ses serments, son repentir. Bercée par les mélodieuses paroles de son amant, elle répondait par monosyllabes sans rien comprendre. Son cœur battait à lui briser la poitrine. Elle était retombée sous le charme irrésistible de l'amour, lorsqu'un nouveau bruit vint l'arracher brusquement à son extase. Mais cette fois, le jeune comte put se retirer sans aucune précipitation dans une pièce voisine, et Jeanne se disposa à recevoir l'important visiteur avec une dignité froide et sévère. Celui qui arrivait si mal à propos pour conjurer l'orage amassé sur le front de la reine, était Charles, l'aîné de la branche des Duras. Après avoir présenté au peuple sa belle cousine comme la seule souveraine légitime, il avait cherché à plusieurs reprises l'occasion d'avoir un entretien qui, suivant toutes les probabilités, devait être décisif. Charles était un de ces hommes qui ne reculent devant aucun moyen pour atteindre leur but. Rongé par une ambition dévorante, habitué dès ses plus jeunes années à cacher ses désirs les plus brûlants sous une légère insouciance, marchant de combinaison en combinaison vers un objet déterminé, sans s'écarter d'une seule ligne du chemin qu'il s'était tracé, redoublant de prudence à chaque victoire et de courage à chaque défaite, pâle dans la joie, souriant dans la haine, impénétrable dans les plus fortes émotions de sa vie, il avait juré d'arriver au trône de Naples, dont il avait cru longtemps l'héritier, comme le plus proche neveu de Robert. Et c'était à lui, en effet, qu'aurait dû appartenir la main de Jeanne, si le vieux roi ne s'était avisé sur la fin de ses jours d'appeler André de Hongrie et de réintégrer dans ses droits la branche aînée à laquelle personne ne songeait plus. Mais ni l'arrivée d'André dans le royaume, ni l'indifférence profonde avec laquelle Jeanne, préoccupée par d'autres passions, avait toujours accueilli les avances de son cousin le Duras, n'avait affaibli un seul instant la résolution de ce dernier. Car l'amour d'une femme et la vie d'un homme ne pesaient rien pour Charles lorsqu'une couronne était sur l'autre plateau de la balance. Après avoir rôdé autour des appartements de la reine, tout le temps qu'elle était restée strictement invisible, il se présenta avec un empressement respectueux pour s'informer de la santé de sa cousine. Le jeune duc avait rehaussé la noblesse de ses traits et l'élégance de sa taille par un magnifique costume tout fleurdelisé d'or et étincelant de pierreries. Son pourpoint de velours écarlate et sa toque de la même couleur relevaient par leur éclat les tons chauds de sa figure, et sa noire prunelle d'aigle lançait des éclairs et animait sa physionomie. Charles parla longtemps à sa cousine de l'enthousiasme que le peuple avait montré à son avènement au trône et des brillantes destinées qu'elle aurait à remplir. Il traça un tableau rapide et exact de la situation du royaume, et tout en prodiguant des éloges à la sagesse de la reine, il indiqua adroitement les améliorations que le pays réclamait avec le plus d'urgence. Enfin, il mit dans son discours tant de chaleur et tant de réserve à la fois qu'il parvint à détruire la fâcheuse impression que son arrivée avait produite. Malgré les égarements d'une jeunesse dépravée par la plus déplorable éducation, Jeanne était portée par sa nature aux grandes choses. S'élevant au-dessus de son âge et de son sexe, dès qu'il s'agissait du bonheur de ses sujets, elle oublia sa singulière position, écouta le duc de Duras avec le plus vif intérêt et avec l'attention la plus bienveillante. Alors il hasarda des allusions sur les dangers qui menaçaient la jeune reine. Il parla vaguement de la difficulté de distinguer les véritables dévouements des lâches complaisances et des attachements intéressés. Il insista sur l'ingratitude des personnes qu'on a le plus comblées de bienfaits et dans lesquelles on avait le plus de confiance. Jeanne, qui venait de faire une si douloureuse expérience de la vérité de ses paroles, répondit par un soupir, puis, après un instant de silence, « Oh, puisse Dieu, que j'appelle à témoin de mes intentions droites et loyales, démasquer les traîtres et m'éclairer sur mes véritables amis. Oh, je sais que le fardeau qu'on m'impose est bien lourd, et je ne présume pas trop de mes forces, mais la vieille expérience des conseillers auxquels mon aïeul a confié ma tutelle, le concours de ma famille et surtout votre pure et cordiale amitié, mon cousin, m'aideront, je l'espère, dans l'accomplissement de mes devoirs. Mon vœu le plus sincère est que vous puissiez réussir, ma belle cousine, et je ne veux pas troubler des moments qui doivent être entièrement au bonheur par des pensées de méfiance et de doute. Je ne veux pas me mêler à la joie qui éclate de toutes parts en vous saluant du titre de reine des regrets stériles sur l'aveugle destinée qui place à côté de la femme que nous adorons tous à côté de vous, ma cousine, dont un seul regard rendrait un homme plus heureux que les anges, un étranger indigne de partager votre cœur, incapable de partager votre trône. Mais vous oubliez, Charles, dit la reine en tendant la main comme pour arrêter ses paroles, vous oubliez qu'André est mon mari et que c'est la volonté de notre aïeul qui l'a appelé à régner avec moi. Mais jamais, s'écria le duc d'une voix indignée, oh, lui, roi de Naples, mais songez donc que la ville s'ébranlerait dans ses fondements, que le peuple se soulèverait en masse, que les cloches de nos églises sonneront de nouvelles vêpres siciliennes avant que les Napolitains se laissent gouverner par une poignée de Hongrois ivres et féroces, par un moine hypocrite et difforme, par un prince qu'on déteste autant qu'on vous aime. Mais qu'est-ce donc qu'on lui reproche? Quelle est sa faute? Quelle est sa faute? Qu'est-ce qu'on lui reproche, madame? Mais le peuple lui reproche d'être incapable, grossier, sauvage. Les nobles lui reprochent de violer leurs privilèges et de protéger ouvertement des hommes d'une naissance obscure. Et moi, madame, ajouta-t-il en baissant la voix, moi, je lui reproche de vous rendre malheureuse. Jeanne tressaillit comme si une main rude eût froissé sa blessure. Mais, cachant son émotion sous un calme apparent, elle répondit du ton de la plus parfaite indifférence. « Je crois que vous rêvez, Charles, qui vous a autorisé à me croire malheureuse. »« Mais n'essayez pas de l'excuser, ma cousine, reprit Charles vivement. Vous vous perdriez sans le sauver. » La reine regarda son cousin fixement comme pour lire au fond de son âme et pour bien s'expliquer le sens de ses paroles. Mais ne pouvant pas croire à la pensée horrible qui se présenta à son esprit, elle affecta une entière confiance dans l'amitié de son cousin pour pénétrer ses projets et lui dit avec abandon « Eh bien, Charles, supposons que je ne sois pas heureuse. Quel remède sauriez-vous me proposer pour échapper à mon sort ?»« Mais vous le demandez, ma cousine. Est-ce que tous les moyens ne sont pas bons lorsque vous souffrez et qu'il s'agit de vous venger? Mais encore faut-il avoir recours à des moyens possibles. André ne renoncera pas facilement à ses prétentions. Il a un parti qui le soutient, et dans le cas d'une rupture ouverte, son frère, le roi de Hongrie, peut nous déclarer la guerre et porter la désolation dans le royaume. » Le duc de Duras sourit légèrement, et sa physionomie prit une expression sinistre. « Non, mais vous ne me comprenez pas, ma cousine. Ben, »« Expliquez-vous donc sans détour, » dit la reine, en faisant des efforts pour ne pas trahir le frisson convulsif qui agitait ses membres. « Écoutez, Jeanne, » dit Charles en prenant la main de sa cousine et en la portant sur son cœur. « Sentez-vous ce poignard ?»« Je le sens, » dit Jeanne en pâlissant. « Eh bien, un mot de vous et... »« Eh bien... » Et demain, vous serez libre. Un meurtre ! S'écria Jeanne en reculant d'horreur. Oh, je ne m'étais donc pas trompé. C'est un meurtre que vous veniez me proposer. Indispensable, ajouta le duc tranquillement. Aujourd'hui, c'est moi qui le conseille, mais plus tard, ce sera vous qui l'ordonnerez. Assez, malheureux. Je ne sais si vous êtes plus lâche que téméraire ou plus téméraire que lâche. Lâche, car vous m'avouez un projet criminel, parce que vous êtes persuadé que je ne vous dénoncerai pas. Et téméraire, parce qu'en me l'avouant, vous ne savez pas qu'il n'y a point ici d'autres témoins qui nous écoutent. Eh bien, madame, puisque je viens de me livrer, vous comprendrez que je ne puis pas vous quitter avant de savoir si je dois me regarder comme votre ami ou comme votre ennemi. « Sortez !» s'écria Jeanne avec un geste dédaigneux. « Vous insultez votre reine. Vous oubliez, ma cousine, que je pourrais bien avoir un jour des droits à votre royaume. »« Mais ne m'obligez pas à vous faire chasser de ma présence, » dit Jeanne en s'avançant vers la porte. « Allons, ne vous emportez pas, ma belle cousine. Je vous laisse. Mais rappelez-vous du moins que c'est moi qui vous ai tendu la main. » Et que c'est vous qui la repoussez. Retenez bien ce que je vous dis dans ce moment solennel. Aujourd'hui, je suis le coupable. Un jour, peut-être, je serai le juge. » Et il s'éloigna lentement, tournant la tête à deux reprises et lui jetant de loin par un geste sa menaçante prophétie. Jeanne se cacha le visage dans ses mains et resta longtemps abîmée dans ses réflexions douloureuses. Puis, la colère dominant chez elle tous les autres sentiments, elle appela Donna Cancia et lui intima alors de ne plus laisser entrer personne sous quelque prétexte que ce fût. La défense n'était pas pour le comte d'Artois, car le lecteur se rappelle qu'il était dans la chambre à côté. Cependant, la nuit était tombée, et depuis le môle jusqu'à Margeline, depuis le château Capouan jusqu'à la colline de Saint-Elme, le plus profond silence avait succédé aux mille cris de la ville la plus bruyante de l'univers. Charles de Duras, s'éloignant rapidement de la place des Corrigi, après avoir jeté sur le château neuf un dernier regard de vengeance, s'enfonça dans les dédales de rues obscures et tortueuses qui se croisaient dans tous sens dans l'ancienne cité, et au bout d'un quart d'heure, d'une marche tantôt lente, tantôt précipitée, qui trahissait l'agitation de son esprit, il arriva à son palais ducal, situé près de l'église de San Giovanni a Mare. Après avoir donné quelques ordres d'une voix dure et brusque à un de ses pages, auquel il remit son épée et son manteau, Charles s'enferma dans son appartement, sans monter chez sa pauvre mère, qui dans ce moment pleurait, triste et seule, sur l'ingratitude de son fils, et se vengeait, comme toutes les mères, en priant Dieu pour lui. Le duc de Duras fit plusieurs tours dans sa chambre, comme un lion dans sa cage, comptant les minutes et dévoré par son impatience. Il allait appeler un de ses valets pour renouveler ses ordres, lorsque deux coups frappés sourdement à la porte l'avertirent que la personne qui l'attendait venait enfin d'arriver. Il ouvrit vivement et un homme d'une cinquantaine d'années, noir de la tête aux pieds, entra avec les plus humbles révérences et referma soigneusement la porte après lui. Charles se jeta sur un fauteuil et, regardant fixement cet homme qui se tenait debout devant lui, les yeux baissés vers la terre, les bras croisés sur la poitrine dans l'attitude du plus profond respect et de la plus aveugle obéissance, il lui dit lentement, en pesant chaque parole, « Maître Nicolas de Malanzo, avez-vous encore quelques souvenirs des services que je vous ai rendus ?» L'homme à qui ces mots s'adressaient frissonna de tous ses membres, comme s'il eût entendu retentir à son oreille la voix de Satan réclamant son âme. Puis, levant sur son interlocuteur un regard effaré, il demanda d'une voix sombre « Qu'ai-je fait, monseigneur, pour mériter un tel reproche ?»« Non, ce n'est pas un reproche que je vous adresse. » Notaire, c'est une simple question. Mais monseigneur peut-il douter un instant de ma reconnaissance éternelle? Moi, à oublier les bienfaits de votre excellence, mais quand même je perdrais à un tel point la raison et la mémoire. Ma femme et mon fils ne sont-ils pas là tous les jours pour me rappeler que nous vous devons tout, que nous vous devons la fortune, la vie, l'honneur? Oh oui, je m'étais rendu coupable d'une action infâme, continua le notaire en baissant la voix, d'un faux qui entraînait non seulement pour moi la peine de mort, mais aussi la confiscation de mes biens, la désolation de ma famille, la misère et la honte de mon fils unique, de ce même fils auquel j'aurais voulu, malheureux que j'étais, assurer un brillant avenir, par un crime épouvantable, mais... Vous aviez dans vos mains les preuves de ce crime. Oh, je les ai encore. Et vous ne me perdrez pas, monseigneur, reprit le notaire en tremblant. Me voici à vos pieds, prenez ma vie, excellent, j'expirerai dans les tourments sans me plaindre, mais sauvez mon fils, puisque vous avez été si clément de l'épargner jusqu'ici. Grâce pour sa mère, grâce, mon seigneur. Rassure-toi, dit Charles en lui faisant signe de se relever. Il ne s'agit pas de ta vie. Cela viendra, peut-être. Non, ce que j'ai à te demander à présent est bien plus facile et bien plus simple. J'attends vos ordres, monseigneur. Et d'abord, reprit le duc d'un ton ironiquement enjoué, tu vas rédiger en bonne forme le contrat de mon mariage. Mais à l'instant même, excellence, tu écriras dans le premier article que ma femme m'apporte en dot la comté d'Alba, la justice de Grati et de Giordano, avec tous les châteaux, les fiefs et les terres qui en dépendent. Mais, monseigneur, répondit le pauvre notaire avec le plus grand embarras, est-ce que vous y trouvez quelque difficulté, maître Nicolas? Oh, Dieu m'en garde, excellence, mais qu'est-ce donc? C'est que, si monseigneur me permet, c'est qu'il y a à Naples qu'une personne qui possède la dot que votre excellence vient de désigner. Après, et cette personne, balbutia le notaire, de plus en plus embarrassé, est la sœur de la reine. Aussi écriras-tu dans le contrat le nom de Marie d'Anjou. Mais, répliqua encore timidement maître Nicolas, la jeune fille que votre excellence désire épouser a été destinée, il me semble, dans le testament du feu roi notre seigneur de bienheureuse mémoire, à devenir la femme du roi de Hongrie ou du petit-fils du roi de France. Je comprends ton étonnement, mon cher notaire. Ceci t'apprendra que la volonté des oncles n'est pas toujours la volonté des neveux. Et en ce cas, si j'osais, si monseigneur daignait m'accorder la permission, si j'avais un avis à donner, je supplierais bien humblement votre excellence de réfléchir qu'il s'agit de l'enlèvement d'une mineure. Et depuis quand avez-vous des scrupules, maître Nicolas? Cette apostrophe fut accompagnée d'un regard si terrible que le pauvre notaire atterré eut à peine la force de répondre. Dans une heure, le contrat sera prêt. Ainsi, nous sommes d'accord sur le premier point, continua Charles en reprenant son ton de voix naturelle. Bon, voici maintenant ma seconde commission. Tu connais, je crois, depuis plusieurs années, d'une manière assez intime, le valet de chambre du duc de Calabre. Tommaso Pace, oh, c'est mon meilleur ami. À merveille. Et écoute-moi donc et songe que de ta discrétion dépend le salut ou la ruine de ta famille. Un complot ne tardera pas à sourdir contre le mari de la reine. Les conjurés gagneront sans doute le valet d'André, l'homme que tu appelles ton meilleur ami. Bien, ne le quitte pas un instant. Cherche à t'attacher à lui comme une ombre. Et jour par jour, heure par heure, viens me rapporter fidèlement les progrès de la conspiration et les noms des complices. C'est tout ce que votre excellence avait abandonné? Oui, c'est tout. Le notaire s'inclina respectueusement et sortit pour mettre à exécution sans délai les ordres qu'il venait de recevoir. Charles passa le reste de la nuit à écrire à son oncle le cardinal de Périgord, un des prélats les plus influents de la cour d'Avignon. Il le priait avant tout d'employer son autorité pour empêcher que Clément VI ne signât la bulle du couronnement d'André, et il terminait sa lettre en faisant les plus vives instances à son oncle pour lui obtenir du pape la permission d'épouser la sœur de la reine. « Nous verrons, ma cousine, dit-il en cachetant sa lettre, lequel de nous deux comprend mieux ses intérêts. Ah, vous ne voulez pas m'accepter pour ami, eh bien, vous m'aurez pour adversaire. Endormez-vous dans les bras de vos amants, je vous réveillerai quand l'heure sera venue. Un jour, je serai peut-être duc de Calabre, et ce titre-là, vous ne l'ignorez pas, ma cousine, est le titre de l'héritier du trône. Le lendemain, les jours suivants, remarqua un changement complet dans les manières de Charles à l'égard d'André. Il l'aborda avec les marques de la plus vive sympathie, flatta ses goûts avec adresse, et fit croire à frère Robert que, loin d'être hostile au couronnement d'André, son plus ardent désir était de voir respecter les volontés de son oncle, et que s'il avait paru agir dans un sens contraire, il l'avait fait dans le but d'apaiser la populace, qui, dans sa première effervescence, aurait pu se soulever contre les Hongrois. Il déclara avec énergie qu'il détestait cordialement les personnes qui entouraient la reine pour l'égarer par leurs conseils, et s'engagea à joindre ses efforts à ceux du frère Robert pour renverser les favoris de Jeanne par tous les moyens que le sort mettrait à leur portée. Quoique le Dominicain ne fût nullement persuadé de la sincérité du récit de son allié, il n'en accepta pas moins avec joie son appui qui pouvait être si utile à la cause de son prince, attribuant la conversion subite de Charles à une rupture récente avec sa cousine et se promettant de mettre à profit le ressentiment du duc de Duras. Quoi qu'il en fût, Charles s'insinua tellement dans le cœur d'André qu'au bout de quelques jours, il était impossible de voir l'un sans l'autre. Si André partait pour la chasse, plaisir qu'il affectionnait de préférence, Charles s'empressait de mettre à sa disposition sa meute et ses faucons. Si André chevauchait par la ville, Charles caracolait à son côté. Il se prêtait à tous ses caprices, le poussait aux excès, envenimait ses colères. En un mot, il était le bon ou le mauvais esprit qui soufflait au prince toutes ses pensées et dirigeait toutes ses actions. Jeanne comprit bientôt ce manège auquel, du reste, elle s'attendait. Oh, elle aurait pu d'un seul mot perdre Duras. Mais, dédaignant une si basse vengeance, elle le traita avec le plus profond mépris. La cour se trouva ainsi divisée en deux parties. D'un côté, les Hongrois, dirigés par frère Robert et appuyés ouvertement par Charles de Duras, et de l'autre côté, toute la noblesse napolitaine, à la tête de laquelle étaient les princes de Tarente. Et Jeanne, dominée par la grande sénéchale et par ses deux filles, la comtesse de Terlizzi et la comtesse de Morcone, par Donna Garcia et par l'impératrice de Constantinople, embrassa le parti napolitain contre les prétentions de son mari. Le premier soin des partisans de la reine fut d'inscrire son nom dans tous les actes publics, sans y joindre celui d'André. Mais Jeanne, guidée par un instinct de probité et de justice au milieu de la corruption de sa cour, n'avait consenti à cette dernière manifestation que d'après les conseils d'André. D'Isernie est un des plus savants jurisconsultes de cette époque, également respectable par son caractère élevé et par sa haute sagesse. Le prince, irrité de se voir exclu des affaires, riposta par la violence et le despotisme. Il délivra des prisonniers de sa propre autorité, partagea ses faveurs parmi les Hongrois et combla d'honneur et de richesse Jean Pipino, comte d'Altamura, l'ennemi le plus redoutable et le plus détesté des barons napolitains. Ce fut alors que les comtes de San Severino et de Mileto, de Terlizzi et de Balzo, de Catalfarzo et de Saint-Ange, et la plupart des grands du royaume, exaspérés par la hauteur insolente que déployait de jour en jour le favori d'André, décidèrent sa perte et celle de son protecteur lui-même s'il persistait à attaquer leurs privilèges et à braver leur colère. D'un autre côté, les femmes qui entouraient la reine la poussaient, chacune selon son intérêt, dans sa nouvelle passion. Et la pauvre Jeanne, délaissée par son mari, trahie par Cabane, fléchissant sous le fardeau de devoirs trop au-dessus de ses forces, se réfugiait dans l'amour de Bertrand d'Artois et n'essayait pas même de combattre, car tous les principes de religion et de vertu avaient été détruits à dessein dans l'esprit de la reine, et son âme s'était de bonne heure pliée au vice, comme le corps de ces pauvres créatures dont les os sont brisés par les jongleurs. Quant à Bertrand, il l'adorait avec une ardeur qui dépassait toutes les bornes des passions humaines. Arrivé au comble d'un bonheur qu'il n'avait jamais osé espérer dans ses rêves les plus téméraires, le jeune homme avait failli en perdre la raison. En vain, son père, Charles d'Artois, comte d'Air, descendant en droite ligne de Philippe le Hardi et un de ses régents du royaume, avait tâché, par des amonestations sévères, de l'arrêter au bord du précipice. Mais Bertrand n'écoutait que son amour pour Jeanne et sa haine implacable pour tous les ennemis de la reine. Souvent, à la chute du jour, tandis que la brise du Posilippe ou de Sorrente venait de loin se jouer dans ses cheveux, on pouvait le voir accoudé sur une des croisées du château neuf, pâle, immobile, regardant fixement du côté de la place, au moment où le duc de Calabre et le duc de Duras, galopant côte à côte au milieu d'un nuage de poussière, s'en revenaient joyeusement de leur promenade du soir. Alors les sourcils du jeune comte se rapprochaient par une contraction violente. Son regard d'un bleu si pur lançait des lueurs fauves et sinistres. Une pensée de vengeance et de mort traversait son front comme un éclair. Puis on le voyait tout à coup tressaillir. Une main légère s'appuyait sur son épaule. Il se tournait doucement de peur que la divine apparition ne s'envolât vers le ciel. Et il trouvait debout derrière lui une jeune femme qui, les joues en feu, le sein agité, les yeux brillants et humides, venait lui faire le récit de la journée et lui demander un baiser sur le front pour prix de ses travaux et de son absence. Et cette femme qui venait de dicter des lois et de rendre justice au milieu de graves magistrats et de ministres austères n'avait que 15 ans. Et ce jeune homme qui comprimait sa douleur et qui, pour la venger, méditait un régicide, n'en avait pas encore 20. 2 enfants jetés sur la terre pour être le jouet d'une si terrible destinée. Se faire pardonner le large guet-apens par lequel l'ancienne gouvernante avait forcé la main de la reine à signer tout ce que son fils demandait. 2 mois et quelques jours s'étaient ainsi écoulés depuis la mort du vieux roi, lorsqu'un matin, le vendredi 28 mars de cette même année 1343, la grande sénéchale Philippa, qui avait déjà trouvé moyen de se faire pardonner le large guet-apens par lequel l'ancienne gouvernante avait forcé la main de la reine à signer tout ce que son fils demandait, Philippa, disons-nous, agitée par une terreur véritable, pâle et défaite, entra dans les appartements de la reine pour lui apporter une nouvelle qui devait répandre l'alarme et le deuil dans toute la cour. Marie, la jeune sœur de Jeanne, Marie avait disparu. On avait parcouru les cours et les jardins pour découvrir quelques traces. On avait cherché dans tous les coins du château. On avait interrogé les gardes et on les avait menacés de les mettre à la torture pour leur arracher la vérité. Personne n'avait aperçu la princesse et aucun indice n'avait été recueilli qui pût justifier la supposition d'une fuite ou d'un enlèvement. Jeanne, frappée par ce coup inattendu qui venait ajouter une nouvelle douleur à tous ses chagrins, demeura d'abord dans un état d'anéantissement complet. Puis, quand elle fut revenue de sa première surprise, elle s'emporta contre tous les malheureux à qui le désespoir ôta la raison, donna des ordres qu'on avait déjà exécutés, répéta 1000 fois les mêmes demandes pour entendre toujours les mêmes réponses, suivies de regrets stériles et d'injustes reproches. Bientôt, la nouvelle se répandit dans la ville et y causa un profond étonnement. Une immense clameur s'éleva dans le château. Les membres du conseil de régence se rassemblèrent à la hâte. On expédia des courriers dans toutes les directions, promettant 3 000 ducats d'or à celui qui lui révélerait le lieu où l'on cachait la princesse, et un procès fut immédiatement instruit contre les soldats qui, au moment de la disparition, veillaient à la garde de la forteresse. Bertrand d'Artois tira la reine à l'écart et lui communiqua ses soupçons qui tombèrent directement sur Charles de Duras. Mais Jeanne ne tarda pas à le convaincre de l'invraisemblance de son hypothèse. D'abord, Charles n'avait pas remis le pied au Château-Neuf depuis le jour de son orageuse explication avec la reine, affectant de quitter toujours André près du pont toutes les fois qu'il l'accompagnait dans la ville. Ensuite, on n'avait jamais remarqué, même dans le passé, que le jeune duc eût adressé une parole à Marie ou échangé un regard avec elle. Il résultait enfin de tous les témoignages qu'aucun étranger n'avait pénétré dans l'intérieur du château la veille de l'événement, à l'exception d'un notaire nommé Maître Nicolas de Melazzo, vieux bonhomme moitié fou, moitié dévot, et dont Tommaso Pace, le valet de chambre du duc de Calabre, répondait sur sa tête. Bertrand se rendit aux raisons de la reine, et tous les jours il mit en avant de nouvelles suppositions, moins probables les unes que les autres, pour entretenir sa maîtresse dans un espoir qu'il était loin de partager. Mais un mois après la disparition de la jeune fille, et précisément le matin du lundi 30 avril, une scène étrange et inouïe, et dont la témérité dépassait tous les calculs, vint frapper de stupeur le peuple napolitain et changea en indignation la douleur de Jeanne et de ses amis. Aussitôt que la cloche de l'église de San Giovanni sonna midi, les portes du magnifique palais de Duras s'ouvrirent à deux battants, et un double rang de cavaliers, montés sur des chevaux richement caparaçonnés et portant sur les boucliers les armes du duc, sortit au son des trompettes et se rangea tout autour de la maison pour empêcher les gens du dehors de troubler la cérémonie qui allait se passer aux yeux d'une foule immense rassemblée tout à coup et comme par enchantement sur la place. Au fond de la cour s'élevait un autel, et sur l'estrade on avait préparé 2 coussins de velours cramoisi sur lesquels étaient brodés en or les fleurs de lys de France et la couronne ducale. Charles s'avança, revêtu d'un costume éblouissant et tenant par la main la sœur de la reine, la princesse Marie, jeune fille qui n'avait alors que 13 ans tout au plus. Elle s'agenouilla timidement sur un des coussins, et lorsque Charles en lui fait autant, le grand aumônier de la maison de Duras demanda solennellement au jeune duc quelles étaient ses intentions en se présentant dans cette humble attitude devant un des ministres de l'Église. À ces mots, Maître Nicolas de Malazzo se plaça à la gauche de l'autel et lut d'une voix ferme et claire d'abord l'acte de mariage contracté entre Charles et Marie et ensuite les lettres apostoliques de Sa Sainteté le souverain pontife Clément VI qui, levant de son plein pouvoir tous les obstacles qui auraient pu empêcher cette union, tels que l'âge de la jeune fille et les degrés de parenté qui existait entre les deux époux autorisait son fils bien-aimé Charles, duc de Duras et d'Albanie, à se marier avec la très illustre Marie d'Anjou, sœur de Jeanne, reine de Naples et de Jérusalem, et leur accordait sa sainte bénédiction. L'aumônier prit alors la main de la jeune fille, et après l'avoir placée dans la main de Charles, il prononça les prières de l'Église. Après quoi, Charles, se tournant à moitié vers le peuple, dit d'une voix forte « Devant Dieu et devant les hommes, celle-ci est ma femme. » « Et celui-ci est mon mari, » ajouta Marie en tremblant. « Vive le duc et la duchesse de Duras !» s'écria la foule en battant des mains. Et les deux époux, montant aussitôt sur deux chevaux d'une extrême beauté, suivis de leurs cavaliers et de leurs pages, firent solennellement le tour de la ville et rentrèrent dans leur palais au bruit des applaudissements et au son des fanfares. Lorsque cette incroyable nouvelle fut rapportée à la reine, la première impression qu'elle produisit sur son âme fut une grande joie d'avoir enfin retrouvé sa sœur. Et comme Bertrand d'Artois voulait monter à cheval à la tête des barons pour s'élancer sur le cortège et punir le ravisseur, Jeanne l'arrêta de la main en levant sur lui un regard d'une profonde mélancolie. « Hélas !» lui dit-elle tristement, « il est trop tard. Ils sont légitimement mariés, puisque le chef de l'Église, qui est en même temps, d'après la volonté de mon aïeul, le chef de notre famille, leur a accordé sa permission. Je plains seulement ma pauvre sœur. Je la plains d'être, si jeune encore, la proie d'un misérable qui l'immole à son ambition, espérant obtenir par ses noces des droits à ma couronne. Mon Dieu, quelle étrange fatalité pèse donc sur la branche royale d'Anjou. Mon père est mort jeune au milieu de ses triomphes, ma pauvre mère n'a pas tardé à le suivre au tombeau, ma sœur et moi, dernier rejeton de Charles Ier, nous voici toutes deux, avant même d'être femmes, livrés à des lâches qui nous regardent comme un marchepied pour monter au pouvoir. » Et Jeanne retomba brisée sur un siège, et une larme brûlante trembla au bord de sa paupière. « Mais c'est la seconde fois, » reprit Bertrand d'un ton de reproche, « que je tire mon épée pour venger vos insultes, et c'est la seconde fois que mon épée rentre dans le fourreau par vos ordres. Mais souvenez-vous, Jeanne, que la troisième fois, je ne serai plus si docile, car ma vengeance ne frappera alors ni Robert de Cabanne, ni Charles de Duras, mais celui qui est à l'origine de tous vos malheurs. Par pitié, Bertrand, ne prononcez pas vous aussi ces paroles. Laissez-moi venir à vous toutes les fois que cette idée horrible s'empare de mon esprit, que cette menace sanglante bourdonne à mes oreilles, que cette image sinistre se dresse devant mes yeux. Laissez-moi venir à vous, mon bien-aimé, pour pleurer dans votre sein, pour rafraîchir à votre souffle mes brûlantes pensées, pour puiser dans vos regards un peu de courage qui puisse raviver mon âme flétrie. Allez, oh, je suis déjà assez malheureuse sans empoisonner mon avenir par un remords éternel. Parlez-moi plutôt de pardon et d'oubli, au lieu de me parler de haine et de vengeance. Montrez-moi un rayon d'espoir au milieu des ténèbres qui m'environnent. Et soutenez mes pas chancelants, au lieu de me pousser dans l'abîme. » Ces altercations se répétaient tous les jours à chaque nouveau tort d'André ou de son parti. Et à mesure que les attaques de Bertrand et les amis de la reine devenaient plus vifs, et il faut le dire, plus justes, Jeanne les repoussait plus faiblement. La domination hongroise, de plus en plus arbitraire et insupportable, irrita tellement les esprits que le peuple en murmura tout bas et les nobles en exprimèrent à haute voix leur mécontentement. Les soldats d'André se livraient à des excès qui n'auraient pas été tolérables dans une ville conquise. On les rencontrait à chaque pas, se disputant dans les tavernes ou se vaudrant dans les ruisseaux, dans un état d'ivresse révoltante. Et le prince, loin de condamner leurs orgies, était accusé de les partager. Son ancien gouverneur, qui aurait dû par son autorité l'arracher à cette ignoble existence, le plongeait dans les plaisirs abrutissants pour l'éloigner des affaires et hâtait, sans s'en douter, le dénouement de ce drame terrible qu'on jouait sourdement au Château-Neuf.